Les voies de service avec Christiane Campagna.
Alors, rebonjour tout le monde, toujours Christiane Campagna avec vous pour cette édition du 9 septembre de l'émission Les Voix de service. Les Voix de service qui m'avaient accompagnée durant la dernière heure ont maintenant quitté. Je suis à nouveau seule en studio pour le moment et nous allons poursuivre avec une tournée de l'actualité. En fait, on l'avait commencé en première heure avec La Presse et le Devoir et là, on poursuit avec le Journal de Montréal. Alors, en une du Journal de Montréal ce matin, parents condamnés à payer 1 million $ pour diffamation, la prof fait saisir leur maison. L'été de rêve des glorieux. Et là, on voit une photo des vacances de Carey Price avec Angela Weber. Alors, je suis allée voir vite dans les pages des sports, c'est qu'on vous raconte l'été qu'ont passé les Canadiens, ce qu'on ne ferait pas pour recommencer à vous parler du hockey avant même qu'il ne recommence. Et enfin, première mondiale à Montréal, Madonna met le paquet. Dans les pages du journal aujourd'hui, on traite beaucoup de la question des ristournes chez Desjardins. Alors, je vais vous lire quelques articles qui traitent de ce sujet. Le premier où on a interviewé l'ancien président du mouvement, M. Claude Bélan. L'ex-président du mouvement est surpris par la remise en question du système de ristournes. La remise en question du système de ristournes aux membres des caisses populaires surprend l'ancien président du mouvement Desjardins, Claude Bélan. « C'est très difficile à comprendre ce qui se passe actuellement chez Desjardins, dit-il. Il y a beaucoup de contradictions. Comme le journal le rapportait hier, le mouvement Desjardins remet en question le populaire versement annuel de ristournes à ses membres. Au prochain congrès d'orientation, qui aura lieu le 19 septembre à Montréal, les délégués des caisses auront à se prononcer sur une réforme majeure des politiques de ristournes, a indiqué un document interne obtenu par le journal. » Selon M. Bélan, cette surprenante réflexion survient alors que Desjardins se vante d'être l'une des institutions financières les plus solides du monde. Et en même temps, elle dit avoir besoin d'argent pour ses réserves. Il y a là deux messages contradictoires envoyés aux membres, fait valoir celui qui a présidé pendant 10 ans et destiné du mouvement Desjardins, mais qui a vraiment consacré toute sa carrière, en fait, au mouvement coopératif. L'an dernier, les caisses ont investi 217 millions de dollars en ristournes à leurs membres, soit 14 % des excédents nets du mouvement, qui sont de 1,6 milliard. Un montant 3 fois moindre qu'en 2007, alors que 592 millions, 54 % des excédents nets, avaient été offerts. D'après M. Bélan, les ristournes offertes aux membres font partie de l'ADN des caisses populaires afin de développer un sentiment d'appartenance dans leur communauté. Sans ristourne, dit-il, disons que cela ressemble de plus en plus aux banques qui, elles, cependant, distribuent encore et toujours de généreux dividendes à leurs actionnaires. Le mouvement Desjardins soutient que plusieurs coopératives de services financiers dans le monde ne versent aucune ristourne à leurs membres. C'est aussi le sujet traité par Mathieu Boccoté dans sa chronique aujourd'hui dans les pages d'opinion du Journal de Montréal. Desjardins, un idéal déchu, demande-t-il. Depuis 2007, les ristournes retournées par Desjardins avaient diminué substantiellement. Elles avaient fondu de plus de la moitié. Aujourd'hui, Desjardins change de catégorie parmi les institutions financières et doit augmenter son capital. L'abolition des ristournes semble la solution la plus simple. Ses dirigeants présentent cela comme un simple ajustement technique. Mais nous savons bien que ce n'est pas le cas. On parle de l'âme du mouvement Desjardins. Un peu d'histoire nous aidera à comprendre. Le mouvement Desjardins, avant d'être une institution financière, est un idéal venu des années de misère québécoise. On l'a oublié, mais il y a quelques décennies à peine, nous vivions encore à la manière d'un peuple conquis, vaincu. Les Canadiens français survivaient comme ils pouvaient et n'avaient pas vraiment de force économique. Le monde financier, essentiellement anglais, nous était fermé. On nous réservait une triste vocation, celle de peuple éternellement enfoncé dans sa pauvreté. C'est en 1900 que Desjardins a été fondé. La philosophie qui inspirait son fondateur, c'était le coopératisme. On a dit qu'il s'agissait d'une philosophie des pauvres. C'est surtout une philosophie de pauvres qui se mettent ensemble pour ne plus l'être et qui militaient pour la démocratie économique. Le mouvement Desjardins entendait faire l'éducation économique des Canadiens français et leur apprendre les vertus de la propriété. Au fil du temps, il s'est étendu à la grandeur du territoire et est devenu un des maillons essentiels du tissu social québécois. Pendant longtemps, la Caisse populaire, dans bien des régions, était la seule capable de comprendre les besoins intimes des communautés. Pourtant, cela fait des années qu'on accuse Desjardins de s'être éloigné de ses membres. Le mouvement voulait s'adapter, mais il se serait renié. La formule est connue. Desjardins ne serait plus qu'une banque comme les autres. Il est vrai que pour survivre, l'institution s'est ajustée à l'univers de la mondialisation financière. C'était probablement inévitable. C'est bien désolant, mais il faut vivre dans un monde qui est le nôtre. Il s'agissait en fait pour Desjardins d'un vrai casse-tête. Comment demeurer fidèle à sa raison d'être, qui est le service de ses membres et de leur communauté, dans un monde qui n'est plus celui qu'il a vu apparaître? C'est le défi qu'a relevé en son temps un homme nommé Claude Bellan, certainement une des figures les plus inspirantes du mouvement Desjardins et qui est aujourd'hui à sa manière le gardien de son âme. Mais ne soyons pas trop sévères. Le capitalisme financier n'est plus une force de progrès. En fait, il représente une puissance plus ou moins anonyme et bien souvent incompréhensible qui écrase les peuples et leur impose ses dictats. On ne sait trop comment, d'ailleurs, domestiquer les banques. Dans un monde où les institutions financières se sont séparées du commun des mortels, Desjardins demeure, à bien des égards, une institution au service du Québec. C'est ici qu'on en revient aux ristournes, écrit Mathieu Bock-Côté. Elles ne font pas la fortune de ceux qui les reçoivent, mais elles symbolisaient, à bien des égards, ce qui restait de l'esprit coopératif dans le mouvement Desjardins. Les dirigeants du mouvement devraient y penser deux fois avant de sacrifier ce qui leur permettait encore de sauver les apparences. Dans les pages économiques du Journal de Montréal, Michel Girard écrit à propos du même sujet. Le texte s'intitule « Desjardins grossit, la ristourne rapetisse ». La cote d'amour dont bénéficie le mouvement Desjardins risque de chuter fortement si l'institution chérie des Québécois décide de couper sa ristourne annuelle. Mettre la hache dans la ristourne annuelle serait très mal perçu par une grande partie des 5 millions de membres de la gigantesque coopérative financière. Par rapport aux grandes banques canadiennes, c'est la fameuse ristourne qui distingue Desjardins des autres institutions bancaires. Cette ristourne est versée aux membres particuliers et entreprises qui font affaire avec les caisses. Le montant de la ristourne est notamment déterminé en fonction des intérêts payés sur les emprunts et des intérêts encaissés sur les dépôts. Plus le volume d'affaires du membre est important, plus la ristourne est grosse. La mise au point est en fait, c'est lors du congrès du 19 septembre prochain que les délégués des caisses Desjardins se prononceront sur l'avenir de la ristourne. La question soumise au vote des délégués, sommes-nous d'accord pour accroître les excédents à verser à la réserve afin de favoriser l'autogénération du capital nécessaire à la croissance de nos activités, sera la question posée. On remarquera que la question ne porte pas directement sur l'abolition ou pas de la ristourne. Alors pourquoi la suscitons à la ristourne? Parce que le montant de la ristourne est relié, lui, aux excédents à verser à la réserve. Si les délégués des caisses acceptent d'augmenter le versement des excédents à la réserve du mouvement Desjardins, cela ne se traduira forcément par une diminution équivalente de la ristourne versée aux membres des caisses. Une simple question, de vaste communicant, explique Michel Girard. Mon collègue Pierre Couture retraçait hier la chute libre des ristournes au cours des 8 dernières années. En 2007, Desjardins avait versé une ristourne globale de 592 millions de dollars. L'an dernier, la ristourne totalisait quelque 217 millions. La ristourne a ainsi fondu de 63 % au cours de cette période de 8 ans. Mais pendant ce temps-là, sachez que l'actif du mouvement Desjardins augmentait de 59 %, passant de 144 à 229 milliards. Les bénéfices après impôts de Desjardins, c'est-à-dire le montant des excédents avant ristourne aux membres, grimpaient pour sa part de 45 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, en hausse donc de 492 millions. En 2007, l'excédent net après ristourne versé dans la réserve s'élevait à 509 millions. L'an passé, l'excédent net atteignait 1,4 milliard. Comme on peut le constater, dit Michel Girard, le mouvement Desjardins transfère de plus en plus de ses excédents dans sa réserve, et ce, au détriment de la ristourne destinée à ses 5 millions de membres. Pendant que les membres de Desjardins encaissent de moins en moins de ristournes, les actionnaires des grandes banques canadiennes voient leurs dividendes augmenter sensiblement d'année en année. Et aussi dans le Journal de Montréal, au moment où le gouvernement du Québec décide de centraliser les décisions sur les sites web, on nous parle de sites web qui sont loin d'attirer les foules. Entre autres, 19 000 $ pour un portail qui permet de savoir où notre homard a été pêché. Au gouvernement, on compte une multitude de sites Internet qui n'attirent pas les foules. C'est donc le cas de ce portail-là. Plus de 50 millions ont été engloutis pour le développement et la refonte des sites web du ministère depuis 4 ans, ce qui a convaincu Philippe Couillard d'imposer un moratoire à révéler notre bureau parlementaire. Et les exemples, selon le Journal de Montréal, pullulent dans l'appareil public. Le ministère de l'Agriculture veut promouvoir les aliments du Québec et encourager les consommateurs à acheter du homard québécois. Alors, la facture pour la création du site Sachez le repérer s'élève à 18 755 $. En ligne de la mi-mai au 1er août, le portail n'a pu compter que sur 7 458 visiteurs l'an dernier, révèle les documents obtenus par la CAQ en vertu de la loi sur l'information. C'est tout de même plus de clics que ce qu'a suscité le site Culturalia du ministère de la Culture, mis en ligne pour stimuler les alliances entre les entreprises et les organismes culturels et régionaux. Pour le député caquiste Éric Kerr, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas de pilote dans l'avion. Tout un chacun fait ce qu'il veut au cri de ses fantaisies. Ça donne des sites web loufoques pour lesquels on a payé des prix astronomiques, considérant les coupes qu'on est en train de faire dans les services en éducation aux personnes âgées, a-t-il dénoncé fermement.
Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de boire. Maman est entre mes mains. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais arrêter de boire.
Alors, allez-vous arrêter de boire pour ce... Normalement, c'est un bloc où on aura peut-être d'autres voies de service durant les prochains jours, les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, puisque ce jeudi, la semaine achève, c'est le temps des 5 à 7 approche, on va vous parler un petit peu d'alcool. On nous dit tout d'abord dans le Journal de Montréal et dans la presse aujourd'hui que les Anglos boivent moins que les francophones. L'image de l'anglophone qui se saoule avant d'aller faire du grabuge semble plus le lot des vacanciers ontariens que des Anglos de Montréal, conclut un sondage. À Montréal, 82 % des francophones boivent de l'alcool, comparativement à seulement 65 % des non-francophones, conclut une étude de la firme Crop effectuée pour le compte de l'organisme Éduc'alcool. Et parmi ceux qui boivent, la moyenne hebdomadaire de ces francophones est de 3,8 verres, comparativement à aussi peu que 2,1 pour les non-francophones. Et plutôt que de continuer à vous dire des statistiques, je vais plutôt passer aux bonnes bières de Lanaudière. Le jeudi, dans le Journal de Montréal, c'est la chronique portant sur la bière de David Lévesque, Gendron et Martin Thibault. Et on nous dit, méconnu de plusieurs, Lanaudière comporte tout de même son lot d'endroits dédiés à la bière, mais si on désire relaxer ou fêter dans un pub, force est d'admettre que c'est à Joliette que ça se passe. Et il nous nomme différentes bières, mais je vais vous parler de ce pub de Joliette sur lequel ils mettent l'accent. La Brasserie L'Albion, c'est une maison centenaire enfermant de nombreuses pièces boisées, un espace terrasse faisant partie intégrante de la demeure et un maître brasseur passionné de tradition brassicole rarement bue au Québec, celle de l'Angleterre. Cette brasserie artisanale charme depuis ses débuts, réunissant ce que bien peu d'autres jeunes brasseries d'Amérique du Nord peuvent se vanter d'avoir accompli. Leur bière possède une signature qui leur est propre, tout en faisant souvent allusion à des recettes et des concepts d'antan. Prenez par exemple leur vin d'orge, un vin d'ogre, ça se servit dans des grosses, grosses bouteilles. Alors, le dernier, appelé Cuvée Eliane, en l'honneur du deuxième enfant du brasseur et propriétaire Steven Bussière, nécessite un bouillon de 12 heures, une étape au moins 6 fois plus longue que le vin d'orge moyen brassé au 21e siècle. Une fois la bière fermentée, Steven la fait mûrir au moins un an avant de la servir. En résulte une bière liquoreuse d'un raffinement insoupçonné dans le style. Constat similaire pour le service des offrandes en casque, méthode prisée par des Anglais qui permet de servir une bière gazéifiée de façon naturelle, sans ajout de CO2 artificiel, comme c'est le cas dans la grande majorité des bières conçues en Amérique du Nord. Chez Albion, deux pompes à main installées à même le bar permettent à la brasserie d'offrir deux bières toutes naturelles, ce que les Britanniques appelleraient de la « real ale ». Le résultat est une bière d'une texture et d'une douceur incomparables. Nos papilles ont en effet l'impression de pouvoir s'étendre sur un oreiller, un tantinet sucré. Un oreiller, un tantinet sucré, ça donne le goût quand même d'aller faire un tour à Joliette, de toute beauté. Et finalement, la brasserie Albion mérite une mention spéciale dans notre série d'articles régionaux parce qu'on ne peut la découvrir autrement qu'en allant la visiter sur place. Nulle part ailleurs au Québec ne peut-on boire les prouesses de ce maître brasseur qui excelle autant au niveau des bières de soif que des bières dites de dessert. Et pour conclure cette section sur la boisson avant de passer au volet beaucoup plus sérieux des informations internationales, j'ajouterais que si vous voulez aller découvrir l'Albion, et là c'est vraiment l'animatrice qui parle, c'est ma recommandation personnelle, allez-y le jeudi soir si vous aimez la musique traditionnelle québécoise, puisque le jeudi soir, c'est les sessions de l'Albion, ce qu'on appelle aussi des jams, c'est-à-dire des musiciens qui se rassemblent et qui jouent des standards de la musique traditionnelle. Alors, si vous voulez ajouter l'ambiance à votre dégustation de bière Real Ale britannique, eh bien, rendez-vous à l'Albion le jeudi soir. Alors, bonjour. Bien, il n'y a pas de problème. Les micros sont ouverts, mais je ne vois vraiment pas d'inconvénient à ce qu'on se dise bonjour en ondes, Thibault. Alors, bienvenue parmi nous. Il faut savoir que Thibault est un bénévole dévoué. Alors, il prend une pause de son bénévolat chez Vues et Voix. Il fait de la lecture pour venir faire du bénévolat au Canalem et nous partager son expertise de l'actualité internationale. Donc, Thibault Timmerman, bienvenue.
Ben merci. Oui, ben aujourd'hui, ma voix est assez, claire, puisque je n'ai pas eu à lire.
Tu n'as pas lu?
Il n'y avait plus de livres, donc ça va être...
Bon, merci, Vues et Voix, de nous avoir réservé l'énergie de Thibault pour nous.
Voilà.
Alors, vous allez nous parler de quel sujet aujourd'hui?
Alors, en fait, j'ai entendu parler d'un personnage à la radio. J'ai fait quelques infidélités à Canal M, je m'en excuse. Et quand j'ai entendu parler de cet homme, de cet avocat aux pieds nus, je me suis dit, mais cette histoire est absolument extraordinaire, il faut absolument que j'en parle.
Un avocat
aux pieds
nus.
C'est en fait, dans la réalité, il s'appelle Shen Guangshen. Et c'est un avocat chinois de 43 ans, aveugle, qu'on surnomme l'avocat aux pieds nus parce qu'il a appris en fait son métier en autodidacte. Et il a publié très récemment, en fait, son autobiographie est parue en français très récemment. Et donc, il a fait plusieurs radios et il a donné une entrevue à Paris Match, publiée le 27 août dernier, accordée à Mariana Grépinet. Et donc, je vais vous lire son entrevue qui
vous
est absolument incroyable. Ses lunettes sont devenues un symbole. Lorsqu'une vague de soutien immense s'est levée en 2011 dans le monde entier pour protester contre les persécutions dont il était victime, ses partisans ont publié sur Internet des portraits d'eux avec des lunettes noires. Il s'est battu pour le droit des handicapés et contre les abus et les dérives du système chinois. Devenu un ennemi aux yeux des autorités, il a passé 4 ans en prison, de 2006 à 2010, avant d'être assigné à résidence avec sa femme et leurs deux enfants dans son village de Dongxigu, dans l'est du pays. Il a réussi à s'échapper en 2012 et à trouver refuge aux États-Unis. La journaliste lui demande alors les circonstances de sa fuite, finalement, oui, qui est absolument rocambolesque. Mon isolement dans ma propre maison était presque total. Aucune sortie, aucun visiteur, aucune nouvelle, ni aucun contact avec le monde extérieur. J'avais purgé ma peine de prison, mais je n'étais toujours pas libre. À cette époque, les gardes vivaient avec nous. Plusieurs fois, ma femme et moi avons été roués de coups devant nos enfants. Quand nous étions à table, ils étaient là, à nous regarder manger. Un jour, le 20 avril 2012, le moment s'est présenté. Un des gardes était parti chercher de l'eau. Nous savions que, pendant quelques secondes, il bloquerait la vue de son collègue qui ne pourrait plus me surveiller. J'ai bondi et traversé la cour. Bien qu'aveugle, je connaissais chaque centimètre de terrain autour de chez moi et dans mon village. J'ai franchi un premier mur, puis d'autres, 8 en tout. Mon évasion était de la folie. J'ai traversé le jardin de mes voisins. Je suis tombé, je me suis cassé le pied droit en retombant mal. La nuit tombait. Ça m'a aidé. Au bout de 20 heures, j'ai réussi à me retrouver en dehors du village. Il pleuvait, j'étais couvert de terre. J'ai rampé pendant des heures. J'ai fait chercher un ami par des habitants. D'autres m'ont aidé à me rendre à Pékin, où j'ai trouvé refuge dans un appartement grâce à un ami activiste. De là, j'ai pris contact avec l'ambassade des États-Unis, qui m'apparaissait comme l'endroit le plus sûr de Chine. Il a été convenu qu'un véhicule de l'ambassade me retrouverait à un lieu de rendez-vous où je me rendrai moi-même en voiture. Mais les services de sécurité chinois nous ont repérés et s'est ensuivi une course-poursuite dans les rues de Pékin. Pour finir, nous nous sommes arrêtés. Mes amis m'ont attrapé par le bras et poussé dans la voiture de l'ambassade.
C'est un scénario de film.
C'est un scénario de film, hein, on s'entend sur ce sujet. Alors, vous allez me dire, mais qu'a-t-il bien pu faire pour mériter une telle haine,
un tel acharnement,
voilà. Simplement préciser que, en fait, il est devenu aveugle à 5 mois. Il explique aussi que dans les campagnes chinoises, là je le cite, un aveugle n'avait pas beaucoup de métiers à sa portée, ni de moyens de subsistance. Il y avait très peu d'écoles pour malvoyants. Quand j'étais petit, on pouvait devenir conteur ou devin et aller de village en village dire la bonne aventure. Et dans une entrevue radio, il explique en fait, comme il était très mauvais conteur, il a demandé à ses parents de lui lire des textes de loi. Et c'est comme ça qu'il a appris à devenir avocat en autodidacte. Et donc, ces confrontations avec le régime chinois...
Oui.
Je l'ai affronté dès 1992 en me révoltant contre les impôts frappant les personnes handicapées. En 1991, une loi sur la protection des personnes handicapées était entrée en vigueur. Mais ma famille continuait à payer des impôts exorbitants. J'ai toujours senti que je n'avais pas le choix, que je devais me battre pour plus de justice. En 2003, j'ai poursuivi en justice le métro de Pékin qui a fini par reconnaître la carte d'invalidité nationale et enfin permis l'accès gratuit aux transports pour les handicapés. Cette société a même été la première à autoriser toute personne accompagnant un handicapé à voyager gratuitement, devenant presque un modèle dans le monde.
Oui, parce que ce n'est pas le cas ici.
Oui.
Les gens qui utilisent notre service adapté ou qui prennent le métro paient le même prix que tout autre usager ici.
En effet, même si en fait ils précisent que malheureusement ça c'est dans les faits, dans la loi, et que dans les faits la loi malheureusement n'est pas toujours respectée. C'est aussi les raisons pour lesquelles il se bat. Il s'est également battu contre la politique de l'enfant unique en expliquant que on stérilisait de force les parents qui avaient déjà deux enfants et on obligeait les femmes à avorter. Je vous épargne les détails, mais c'est absolument terrible. Et dit-il, cette lutte avait aussi pour moi un caractère très personnel, car cette année-là, Wei Jin, mon épouse, était enceinte de notre second enfant. Peu de temps après, j'ai été enlevé et condamné à 4 ans de prison. Et donc, on revient là à son histoire de sa détention, d'abord en prison, terrible, puis chez lui, et l'histoire de son évasion. L'entrevue se termine parce que la journaliste lui demande « Et aujourd'hui, qu'en est-il des droits de l'homme en Chine ?» Ceux qui m'ont aidé à m'échapper ont été arrêtés et emprisonnés. La répression des défenseurs des droits de l'homme n'a fait que s'intensifier depuis mon départ. C'est une erreur de penser que la Chine est plus démocratique, qu'elle se libéralise. Le pays va changer. C'est impossible de dire quand, mais ça va arriver.
Merci beaucoup. C'est fascinant. Et maintenant, un texte sur le terrorisme tel que défini à travers l'histoire, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce que, il y a maintenant, je n'ai pas fait le calcul, mais en tout cas, le 10 septembre 1898, était assassinée Élisabeth d'Autriche, dite Sissi.
Et
la fameuse Sissi des films, etc. Et c'est à la suite de cet assassinat qu'est venue en fait l'idée d'une conférence anti-anarchiste où on a tenté de définir le terrorisme. Et c'est un article qui est paru ce mois-ci dans l'Histoire, écrit par Jenny Raflick, qui est maître conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Malgré son caractère inédit, cette conférence n'a guère frappé les esprits. L'acte final en 1898 était un compromis entre les pays libéraux, Angleterre, Suisse, France, soucieux de préserver le droit d'asile politique et de cibler seulement la violence anarchiste, et les régimes autoritaires, Russie, Allemagne, qui y voyaient une occasion de poursuivre leurs opposants politiques à l'étranger et d'atteindre l'anarchisme dans son ensemble. Les effets concrets sont donc minimes, car soumis aux interprétations des différentes parties. Des difficultés qui demeurent aujourd'hui. Les contradictions entre la recherche de sécurité et le souhait d'éviter des ingérences extérieures, d'une part, les tentatives d'instrumentalisation de la menace terroriste, d'autre part. Le tout faute d'accord sur la définition du terrorisme. Si la conférence de Rome de 1898 fait date, c'est qu'elle déboucha pour la première fois sur des coopérations pratiques entre les polices nationales, l'occasion de diffuser au-delà des frontières les méthodes d'identification des criminels mises au point par le criminologue Bertillon, comme les fiches anthropométriques ou les empreintes digitales. Si la menace anarchiste avait réussi à rassembler les États, il en va autrement de la violence des mouvements ethno-nationalistes qui provoquent à la fin du XVIIIe siècle insurrections armées et techniques terroristes. L'article se poursuit sur quelques exemples et, en fait, après-guerre, les résistants européens ayant été accusés de terrorisme par l'occupant nazi, le mot « terrorisme » a revêtu un sens différent. Et l'utilisation du terme pour désigner les combattants anticolonialistes renforce dans une partie de l'opinion cette interprétation positive. Mais à la fin des années 60, le terrorisme ressurgit sur la scène internationale sous l'effet des actions palestiniennes. Oui.
Oui, non, si vous reste quelques mots, vous pouvez terminer.
D'accord. En fait, tout simplement, l'article se termine en disant que même l'ONU aujourd'hui bute toujours sur le même problème, à savoir un accord sur ce qu'est le terrorisme en termes juridiques, et que de fait il n'y a plus que des coopérations entre États et plus du tout de coopération à grande échelle, à l'échelle des Nations Unies.
Le tout de savoir, c'est ce qui se bat de manière légitime et qui est considéré comme un terroriste.
Tout à fait.
Alors sur ce, merci beaucoup Thibault, c'était très éclairant et on se revoit après la pause avec les nouvelles culturelles à cette édition du 9 septembre des Voix de service.
Les voies de service avec Christiane Compagna.
Alors bonjour tout le monde, encore une heure à ces voies de service. Christiane Compagna au microphone avec vous aujourd'hui. Demain, Clotilde sera de retour à l'antenne. Encore merci à nos collaborateurs. Au cours de cette de la demi-heure qui s'en vient d'ailleurs, il y a aussi Anne-Laure Janson qui est recherchiste à Canalem qui viendra se joindre à moi vers 11h10. Mais auparavant, les nouvelles culturelles. Et ce matin, à la une de près tous les journaux ou du moins des cahiers culturels, Madonna au Centre Bell hier soir. Dans le cahier Art de la presse, c'est Émilie Côté qui fait la critique, qui dit « miser sur d'autres forces ». Et dans le Journal de Montréal, nous avons un texte de Marc-André Lemieux qui dit « extravagante Madonna ». Il me semble que j'ai vu passer quelque part, mais ça devait être dans un Alors, toutes ces nouvelles de Madonna dans quelques instants. Si j'étais en question de musique classique, peut-être plus en lien avec, cette nouvelle musique qui introduit le volet culturel et que j'avais oublié. J'avais déjà commencé à vous raconter tout ça. Puisque Marc-André Lemieux, dans le Journal de Montréal, dit que Madonna est extravagante. Mais il me semble que j'ai vu passer dans un des quotidiens du métro que quelqu'un avait été déçu. J'ai vu passer ce titre-là quelque part, mais ce n'est pas dans un des articles que j'ai à vous lire ce matin. Alors, pour ce qui est d'Émilie Côté, elle nous dit « Madonna se ménage sur scène. Nous aurions préféré une autre sélection de chansons. » Et elle a habitué son public à des tournées plus spectaculaires, mais à 57 ans, hein, on rappelle que la Madonna a 57 ans, on ne peut plus lui reprocher, on ne peut lui reprocher de ralentir la cadence. Émilie Côté écrit que dans sa nouvelle tournée Rebel Heart, lancée hier soir au Centre Bell, Madonna n'a pas misé sur le spectaculaire, mais sur le propos de sa mise en scène et sur des moments d'une grande beauté esthétique qui dégagent une part de vulnérabilité. Madonna gardera toujours son cœur de rebelle, mais une certaine sagesse émane de son nouveau spectacle. Son dernier album a eu moins de succès dans les palmarès, mais Madonna ne l'a pas écarté de sa tournée. Au contraire, elle a déterré de vieux succès au rythme plus lent, dont True Blue, qui lui permet de mettre en valeur sa voix plutôt que ses habiletés chorégraphiques. Comme prévu, le spectacle s'est ouvert à 21h30. C'est une bonne chose parce qu'elle avait pendant un bout de temps la réputation de commencer ses spectacles quand bon lui tentait, ce qui est toujours un peu moche pour les gens qui travaillent le lendemain et qui ont payé 300$ pour aller voir l'artiste. Alors, elle a débuté avec Iconic et une vidéo du boxeur Mike Tyson ensanglanté dans un cachot. Madonna l'était aussi alors que des gardes futuro-médiévaux faisaient les 100 pas. Puis Madonna, la vraie, est descendue des airs à bord d'un cachot, écrit Émilie Côté. Vêtue d'une cape rouge, courte cette fois-ci, la star de 57 ans s'était lancée avec ses danseurs sur la passerelle en forme de croix qui traversait le parterre pour aboutir sur une surface en forme de cœur. Chance the Rapper est apparu à l'écran pour sa participation vocale. Émilie Côté termine son article en disant qu'au moment de notre sous-presse, Madonna montait un escalier en colimaçon au milieu du parterre pourchassé par un danseur faisant du parcours. Parcours P-A-R-K-O-U-R. Nous étions un peu sur notre faim, notamment quant au choix des chansons. Mais il restait, dit Émilie Côté, plus de la moitié du spectacle. C'est vrai que quand le spectacle commence à 21h30, ça ne donne pas un grand bout de spectacle à voir pour les journalistes. Et quant à M. Lemieux, dans le Journal de Montréal, il dit qu'alternant entre des tableaux à grand et très grand déploiement et des numéros plus intimistes, cette tournée de Madonna s'inscrit dans la lignée des précédentes séries de concerts. La chanteuse joue encore les provocantes, mais elle le fait avec un brin d'ironie et beaucoup, beaucoup d'artifice. Aussi, il dit que l'étoile a étonné beaucoup de monde dans le dernier droit du concert en reprenant « La vie en rose » d'Édith Piaf, un morceau ovationné avec force par des milliers de spectateurs présents. Music a aussi fait mouche, tout comme « Unapologetic Bitch » et « Material Girl ». Au moment de mettre sous presse, on attendait encore « Holiday », réservé pour la finale.
Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break, sooner or later, you're all that I can trust, facing the darkest days, everyone ran away, we're gonna stay here, I know you're scared tonight, I'll never leave your side.
Alors, Madonna, on souligne aussi dans le Journal de Montréal ainsi que dans la presse que la participation de Moment Factory. Madonna fait confiance à Moment Factory. Des milliers de spectateurs ont pu apprécier le travail de Moment Factory hier soir au Centre Bell à l'occasion du coup d'envoi du Rebel Heart. La firme montréalaise a signé l'habillage visuel de 10 numéros du nouveau spectacle de l'artiste, dont la grande finale au son de Holiday. En entrevue au journal, le directeur de création et cofondateur de Moment Factory, Sachin Bessette, dit avoir développé une belle relation de confiance avec la star qui recourt au service de l'entreprise québécoise pour la troisième fois après sa prestation au 46e Super Bowl et son MDNA Tour. On a une belle complicité avec Madonna, dit-il, on se connaît mieux. Les discussions étaient différentes cette fois-ci. Les employés de Moment Factory étaient venus en grand nombre hier au Centre Bell pour cette première mondiale à guichet fermé. Ils étaient 60 à célébrer le fruit de plusieurs mois de labeur dans les gradins. Ce soir, ils seront 120. On est très fiers du spectacle, dit Sachin Bessette. L'entourage de Madonna a contacté Moment Factory cet hiver. Toute la conception visuelle a été faite à partir des locaux de l'entreprise de Montréal. Ça demande beaucoup de passion et d'énergie de toute l'équipe créative, souligne le directeur. Madonna était impliquée dans chacune des étapes de création. C'était super intéressant de travailler avec elle, indique Sachkin Bessette. Madonna ne fait jamais de compromis. Le mot « correct » ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle travaille extrêmement fort. Elle veut le meilleur des gens avec qui elle travaille, mais elle donne aussi le meilleur d'elle-même. Ils sont rares, les artistes, qui chantent, qui dansent, qui écrivent leurs chansons et qui s'occupent des moindres détails de leur spectacle. Elle prend toutes les décisions en coulisses, puis elle monte sur scène et fait tout. Elle se souvient de tous les mouvements de danse, de toutes les paroles, de tous ses accords de guitare, ce n'est pas rien. Sachkin Bessette parle d'une collaboration inspirante. Elle n'est pas devenue Madonna par hasard, une icône qui a influencé plusieurs générations, non seulement avec sa musique et ses vêtements, mais avec sa façon de penser, son message d'affirmation de soi. Et vous, Anne-Laure? Bienvenue, Anne-Laure. Bienvenue.
Bonjour, Christian.
Est-ce que vous êtes fan de Madonna? Est-ce que vous écoutez sa musique?
Oui, je suis fan et d'ailleurs, on m'y invite ce soir.
Ah, vous allez voir le spectacle ce soir?
Oui!
On pourrait avoir une critique en direct au Canal. Je vous reviens dans quelques instants, mais je voulais juste partager avec nos auditeurs cette nouvelle du Journal de Montréal au sujet de l'ouverture du Festival international de films de Toronto et de Jean-Marc Vallée qui ouvre le bal. C'est un Jean-Marc Vallée fébrile mais confiant qui foulera le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du Festival de Toronto ce soir pour la première mondiale de son nouveau film, Demolition. On a mis la touche finale au film il y a quelques jours et je suis plutôt contente du résultat, lance le cinéaste québécois en entrevue. Il faut dire que Vallée se retrouvera en terrain connu à ce festival où il a présenté la plupart de ses films précédents, dont le Dallas Buyers Club et Wild, qui se sont rendus jusqu'aux Oscars après avoir fait sensation à Toronto. C'est toutefois la première fois qu'il a l'honneur d'ouvrir le bal. C'est un beau cadeau que le festival nous fait en nous offrant leur soirée d'ouverture, souligne le réalisateur, qui sera accompagné ce soir des acteurs principaux de son film, Jake. Donc, cet acteur-là, j'arrive jamais à dire son nom. Rémi, est-ce que tu sais dire comme il faut le nom de Jake Gyllenhaal? À toi non plus, Rémi refuse de se risquer. Mais Naomi Watts, ça va bien, je suis parfaitement capable de le dire. C'est un super tremplin pour le lancement du film. Il y a une belle relation qui s'est développée au fil des années avec le festival, dit le réalisateur. C'est la troisième année d'affilée que je vais y présenter un film. J'ai donc un peu l'impression de boucler la boucle avec Demolition, d'autant plus que je ne pense pas avoir de nouveaux films de prêt pour le festival l'an prochain. Tourné l'automne passé à New York, Demolition met en scène un jeune investisseur qui tente de reconstruire sa vie après la mort de sa femme. C'est un film qu'on a tourné dans le même esprit que Dallas, dit-il, de façon intimiste et en s'imposant comme restriction d'utiliser seulement la lumière naturelle. Jake nous a offert toute une performance, souligne Vallée. Les trois dernières années ont été chargées pour Jean-Marc Vallée. Le réalisateur de Crazy et Café de Flore a tourné coup sur coup les films Dallas Buyers Club et Wild et Demolition, sans se laisser aucun moment de répit entre les trois projets. Cet automne, pour la première fois en 3 ans, il pourra donc profiter de quelques semaines de repos. Je suis pas mal due pour des vacances, dans style en riant. Le tournage de mon prochain film sur la vie de Janis Joplin n'aura pas lieu avant 2016, alors ça me permettra de prendre du temps pour moi, mais aussi pour écrire un peu. J'ai d'autres projets de films que j'aimerais bien faire avancer. Et j'imagine que dans les prochains cours, les voix de service auront l'occasion de vous présenter d'autres textes au sujet du Festival international de Toronto. Alors, vous l'avez entendu un petit peu murmurer dans le micro. C'est la présence, la très jolie voix de Anne-Laure Janson, qui est recherchiste à Canal M, que vous travaillez sur trois émissions.
Tout à fait, trois émissions, deux de Luc Fortin, Ça vaut le détour et Accès libre, et une nouvelle émission, idée originale de Clotilde Seille, qui s'appelle Audio Portrait, qui raconte l'histoire de personnes ayant une déficience visuelle. Une heure de temps, on est en tête à tête avec elle.
Donc, ces portraits-là, c'est le mardi midi.
Mardi midi, il y a eu la première émission, le premier, avec Janine Vanier, une dame de 86 ans, musicienne, qui a raconté toute son histoire et la société québécoise dans laquelle elle a grandi et vécu ensuite. Mardi prochain, ça va être Gérald de Cousineau, le biographe au RAC, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, un passionné de littérature qui a traversé des moments difficiles dans sa vie, qui lui est atteint de rétinite pigmentaire et qui est un fou joyeux, littéralement. Là, il a une heure où il s'est donné à cœur joie et il faut l'écouter. Il m'a stupéfaite.
Donc, vous avez fait la biographie du biographe.
Exactement. C'était pour ma part, mon premier invité, puisque je reprends la série de Clotilde. Mmh. Et j'avais très envie d'avoir l'arroseur arrosé en ouverture.
Et là, qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter ce matin?
Eh bien là, je vais vous présenter en fait la première invitée de Luc Fortin à Ça vaut le détour, qui est une maman incroyable qui s'appelle Louise Gagné, qui a deux jumelles, Valérie et Alexandra, qui ont aujourd'hui 25 ans et qui sont atteintes d'une maladie extrêmement rare qui s'appelle la polyneuropathie sensitivo-motrice, aussi appelée le syndrome d'Anderman. Et comme l'exercice ici veut que je lise un article, j'ai trouvé un article qui date d'une année de la Presse Plus, mais je vais vous mettre à la page des différents chiffres si ça a changé depuis. Mais l'histoire y est, elle a été écrite par Martin Beauséjour, une collaboration spéciale à la Presse Plus. Donc, en créant la Fondation des jumelles Coudé en 93, Louise Gagné et Alain Coudé désiraient offrir un avenir meilleur à leur fille atteinte d'une maladie rare. 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, force est de constater qu'ils ont fait bien plus. Valérie et Alexandra Coudé, 25 ans, sont atteintes d'une maladie neuromusculaire. Cette maladie dégénérative touche principalement la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, région natale de Louise Gagné et Alain Coudé. Aussi appelée syndrome d'Anderman, la maladie attaque les nerfs périphériques responsables de la perception des sensations. Elle cause des problèmes pulmonaires et des déformations des mains, des pieds et de la colonne vertébrale. L'espérance de vie de ces personnes atteintes est d'environ 30 ans. Quand le verdict est tombé en 91, le choc a été brutal pour les parents. Aucun médicament ne traitait la maladie et aucune recherche n'avait encore pu en trouver la cause. On a demandé aux médecins ce qu'il fallait pour trouver un traitement, explique M. Coudé. Ils nous ont répondu qu'il fallait tout d'abord trouver le gène responsable. Le couple a donc créé la Fondation des jumelles Coudé. Grâce à des collectes de fonds, à ce jour, ils ont amassé plus d'1,5 million de dollars pour financer des recherches menées par le docteur Guy Rouleau. On nous avait dit que c'était le meilleur pour diriger nos travaux. On est allé le chercher, ajoute Alain Coudé. Le docteur Rouleau et son équipe ont aussi réussi à identifier le gène responsable de la maladie en 2002. Un test de dépistage est maintenant offert aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean où une personne sur 23 serait porteuse du gène. Grâce à cette découverte, on sait maintenant que la maladie est causée par un manque dans le gène. On ne peut pas en guérir, mais on essaie de ralentir sa progression, dit Alain Coudé. Devenu une référence en la matière, le couple Gagné-Coudé offre du soutien aux familles qui ont un enfant atteint de la polyneuropathie sensitivo-motrice. Ils s'impliquent également dans différents organismes. Ils aimeraient bien poursuivre le combat et s'attaquer à d'autres causes, comme le manque criant d'établissements offrant des activités pour les handicapés de 21 ans et plus. Après cet âge, c'est le néant et c'est toujours presque...
Oui, c'est presque toujours le cas. C'est l'éternel problème. Les parents qui s'inquiètent pour ce qui arrivera quand ils ne seront plus là.
Mmh. Alors, pour l'instant, les parents préfèrent concentrer leur énergie sur Alexandra et Valérie. Elles se déplacent en fauteuil roulant depuis qu'elles ont 5 ans. Elles demandent de plus en plus de soins, avoue Louise Gagné, et puis on vieillit. C'est elle qui en prend soin de ses filles à la maison, sauf le jeudi et le vendredi, quand les filles vont à l'Académie Zénith, un centre pour handicapés de 21 ans et plus. C'est pour ça qu'on peut la voir ce midi en direct à Ça vaut le détour. Un peu de répit pour Louise Gagné après 2 ans passés sur une liste d'attente. Transformer le négatif en positif, c'est aussi ce qu'on s'est toujours répété depuis la naissance des filles, dit Alain Coudé. Et c'est encore ce qu'on essaie de faire tous les jours. Alors voilà, on va parler à cette maman qui donc a levé 1,5 million depuis 1993 pour trouver la maladie de ses filles et aider les autres familles au Québec. À l'époque, 300 enfants étaient atteints. Aujourd'hui, elle va nous dire ce qu'il en est au Québec et dans le monde, parce qu'on sait que la maladie aussi a touché d'autres personnes ailleurs, que ce n'est pas seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et elle va nous dire aussi qu'il y a un manque de relève. Là, elle commence à vouloir passer la main, ouais. et c'est difficile.
Et ça souligne toute la question des maladies rares, où, comme pour la recherche, il faut carrément aller chercher les fonds. parce que évidemment souvent la recherche va être tournée vers les maladies qui touchent le plus grand nombre. Et donc, et aussi la question du répit pour mm-hmm. les parents. Et il y a vraiment plusieurs problématiques importantes soulignées par ce cas-là.
Tout à fait.
Le répit, l'avenir après 21 ans.
Oui. Et puis, comment elle a constitué cette fondation, recruté une équipe de chercheurs, trouvé $1 million, enfin, c'est épatant. On va leur parler à midi, soyez là.
Donc, ça vaut le détour ce midi. Demain midi, c'est... Accès libre.
Accès libre, tout à fait. Une autre émission de Luc Fortin, plus axée sur aussi l'enjeu et la défense des droits des personnes handicapées. Et mardi prochain, ça sera Gérald Cousineau dans Audioportrait à midi.
Merci beaucoup, Anne-Laure.
Merci, Christiane.
Nous sommes maintenant à vous parler de l'actualité telle que décrite dans les différents quotidiens des régions. Je débute aujourd'hui avec la ville de Sherbrooke et le journal La Tribune. Tout d'abord, il semble que du côté de Lennoxville, on soit pris avec un problème de parter étudiant. La ville n'y peut rien. Les parter étudiants sur la corniche de l'Animal House à Lennoxville échappent à la réglementation municipale. Ensuite, frousse sur la rivière Magog, 85 élèves surpris par l'orage violent. Et réfugiés syriens, l'archidiocèse de Sherbrooke parrainera une vingtaine de familles. L'archidiocèse apporte sa contribution pour soulager le drame des réfugiés syriens en s'avançant pour parrainer une vingtaine de familles en attente des autorisations pour immigrer dans la région. Son aide prend la forme d'une garantie d'environ $300 000 et vient en appui direct aux démarches menées par l'Église syriaque orthodoxe Saint-Éphrem, qui va accueillir 4 familles irakiennes à Sherbrooke la semaine prochaine, mais qui doit aussi composer avec une quarantaine de dossiers en attente. Les pourparlers entre l'archidiocèse de Sherbrooke et l'Église syriaque orthodoxe pour faire cause commune étaient en marche depuis un an. Le principe a été accepté par le diocèse bien avant le réveil mondial à l'égard de la crise syrienne, mais il s'est concrétisé mardi par les signatures officielles, résume Benoît Labonté, responsable des communications à l'archidiocèse de Sherbrooke. On parraine directement, mais le choix des familles, la logistique et la prise en charge, on laisse ça à la paroisse Saint-Éphrem, puisqu'elle a déjà développé cette structure d'accueil, explique le père Jean-Marc Grégoire, responsable de la pastorale interculturelle et aux personnes immigrantes à l'archidiocèse de Sherbrooke. Rappelons que l'Église syriaque orthodoxe a elle-même mis $1 million en garantie qui l'autorise à parrainer une quarantaine de familles par année, selon les critères du gouvernement fédéral. Depuis décembre, environ 25 familles ont ainsi pu émigrer à Sherbrooke. L'opinion mondiale, on dit aussi que les catholiques et toute la population seront invités à suivre son exemple dans toutes les paroisses et l'argent recueilli servira du soutien direct. Parce que c'est un article qui souligne ce phénomène du parrainage privé de l'immigration qui, dans le cadre de la Syrie et de l'Irak, c'est beaucoup les églises chrétiennes qui se mobilisent pour pouvoir faire venir ici les réfugiés chrétiens des régions touchées. Aussi dans la tribune, un sujet au fond... connexe, ces enfants qui fuient la guerre. Dans une classe d'accueil, il y a des immigrants volontaires, mais surtout des réfugiés. Parmi les enfants réfugiés, un gamin a été témoin d'assassinat. Un autre a été victime d'un kidnapping. Une autre fillette a entendu des coups de feu lorsqu'elle jouait dehors. Elle a réalisé par la suite que c'était sa copine qui était tombée sous les balles. C'est pour s'éloigner de ces horreurs que leur famille a quitté leur pays d'origine pour s'installer à Sherbrooke après un parcours migratoire souvent rempli d'embûches. Ils arrivent du Congo, du Tchad, de la Tanzanie, l'Afghanistan, la Zambie, la République centrale d'Afrique, la Syrie. En fuyant la guerre, ces enfants ont été plus chanceux que le petit naufragé syrien échoué sur une plage de Turquie. La tribune est allée à la rencontre d'enseignants de classe d'accueil pour savoir à quoi ressemble le parcours scolaire de ces jeunes réfugiés, une fois rendus en pays de paix. Les enfants ne parlent pas trop en classe des horreurs dont ils ont été témoins, parce qu'à leur arrivée, ils ne connaissent pas la langue de leur pays d'adoption, mais surtout parce que les enfants vivent dans le moment présent. Mais parfois, le tonnerre résonne comme une bombe et une élève se retrouve sous son pupitre. Et parfois, la décoration en squelette à l'Halloween effraie plus qu'elle ne le devrait. L'objectif premier est de créer un environnement sécuritaire pour les enfants. C'est seulement lorsque les enfants se sentent en sécurité qu'on peut se tourner vers l'apprentissage, explique Sandra Allais et Katia Arbour, professeurs de classe d'accueil aux écoles primaires des 80 et La Roque. Les deux enseignantes ajoutent que les parents protègent beaucoup leurs enfants de la dure réalité. Souvent, les enfants n'ont pas été témoins des mêmes réalités que les parents, précise-t-elle. En une du journal Le Soleil de Québec, on trouve une vraie usine à ecstasy. Un ancien professeur de chimie de l'Université Laval et trois membres de sa famille sont arrêtés dans le démantèlement de laboratoires clandestins. Et ce matin, autant à la radio que dans les différents journaux, beaucoup de médias faisaient le lien avec la série Breaking Bad parce qu'il paraît que le scénario est vraiment... Moi, je n'ai pas encore écouté la série, mais il paraît que... Rémi opine du bonnet, alors je me dis qu'il pourrait peut-être lui nous dire...
Qu'est-ce que je pourrais vous dire?
Un professeur qui fait de l'ecstasy, c'était l'intrigue de base de Breaking Bad?
C'est exactement ça. C'est un ancien professeur de chimie qui, pour soigner son... financer, mettons, les soins de son cancer, se met à fabriquer de la meth dans une caravane en Albuquerque.
Alors, dans le cas de Québec, c'était un ancien professeur d'université, ainsi que ses fils, dont un qui s'apprêtait à passer son barreau, qui ont été arrêtés par la police. Aussi en une du Soleil, quatre nouveaux dômes pour Beauport. Gilbert Lavoie, les deux nouveaux patrons du PQ. Et on voit la photo de Pierre Duchesne et de Bernard Drainville. Et élection 2015, la FTQ pour le NPD et les libéraux. En effet, la FTQ appuie des candidats du NPD de la région. La centrale syndicale mène une campagne de n'importe qui sauf Harper. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec accorde son soutien aux cinq candidats du NPD de la région métropolitaine de Québec. Fidèle à son mot d'ordre de tout mettre en œuvre pour battre les candidats conservateurs, la direction de la centrale syndicale se rangera même derrière un libéral dans Mont-Royal. La FTQ donne ainsi suite à sa province de se mêler de la campagne électorale. Dans 11 circonscriptions, elle juge pouvoir contribuer à la défaite d'un porte-couleur de la formation de Stephen Harper. Du côté de Saguenay, le quotidien titre « Famille décimée dans le rang Saint-Paul », Martin nie sa responsabilité. Entreprise de l'année des Grands Prix du tourisme canadien, Val-Jalbert finaliste. Et « Rapide mais jeune », une chronique de Dave Hensley au sujet de l'équipe « Les Saguenayens de Chicoutimi ». Et grosse prise du festival « Jazz et blues Los Lobos » au TBN en avril. J'en profite pour souligner... opinion personnelle, que si vous ne connaissez que la version de la Bamba de Los Lobos, vous manquez quelque chose, alors renseignez-vous au sujet de cette formation qui n'est pas du Mexique, hein, qui est de LA, mais dont les membres sont d'origine mexicaine. Alors, pendant qu'on écoute cet instrumental de l'album Kiko de Los Lobos, deux points de vue, en fait, sur est-ce une démotion ou un changement de fonction de M. Bédard au PQ, Stéphane Bédard? On dit dans un article du Quotidien que Bédard accepte son nouveau rôle, dépouillé de son titre de leader parlementaire du Parti québécois. Stéphane Bédard a dit accepter les nouvelles fonctions que lui a confiées son chef Carl Pelado hier. Puisque le député de Chicoutimi a été leader pendant 7 ans avant d'être muté au poste de critique en matière de justice dimanche. Comme au poste de leader, il a été remplacé par Bernard Drainville. Mais dans la caricature du journal Le Saguenay, on voit M. Bédard suivre sagement la ligne de parti, mais cette ligne de parti l'amène au bord d'un précipice et il a déjà un pied dans le vide. Thank you. en une du journal Le Droit aujourd'hui. Gatineau emmène large au développement économique et dans le développement économique des MRC. Ça fait l'objet de plusieurs textes. Une première au Canada, juge de père en fille. Le meurtrier de Maniwaki, prison à vie. Et donc, plusieurs articles. Gatineau ne doit pas écraser le monde rural. Tout mettre en commun, c'est bien, mais c'est loin d'être évident dans une telle formule que tout le monde y trouve son compte. Encore, c'est le développement des MRC et le rôle qui joue Gatineau. Et en caricature, on a « Le Canada ouvre les bras aux réfugiés syriens », mais le dessin est Stephen Harper avec ses deux bras parfaitement derrière le dos, donc peut-être moins accueillant que la formule officielle ne le mentionne. Alors, ça faisait le tour de l'actualité régionale pour ce matin. On se revoit après la pause avec des textes d'opinion et les sports. Je vais saluer Kevin Breton qui vient d'entrer en studio, qui nous fera les sports tout à l'heure. Je pense qu'on n'avait pas encore allumé ton micro, mais je te salue quand même.
Ben, ça, pareillement, puis finalement, mon micro fonctionne, donc bonjour, Christiane.
Voilà. Alors, je débute avec quelques textes d'opinion. Tout d'abord, un qui est paru dans la presse, une lettre de Mélanie Petit, « Mère indigne qui drogue son enfant », dit-elle, puisque son opinion, c'est « Le TDAH est une maladie ». Dans la foulée du récent livre du philosophe Jean-Claude Saint-Onge, TDAH pour en finir avec le dopage des enfants, qui a donné lieu à un reportage dans la section Pause le 7 septembre, je suis sidérée de lire ces articles du début d'année scolaire qui stigmatisent, une fois de plus, les parents qui donnent une médication à leur enfant à la suite d'un diagnostic de TDAH. Quand un philosophe se mêle de questions de santé, il est intéressant de connaître son point de vue, mais il est impensable de le considérer comme plus concluant que celui des médecins, des chercheurs, des psychologues et des psychiatres qui travaillent d'arrache-pied pour défaire les mythes qui entourent le TDAH. Je ne dis pas qu'il ne faut pas remettre en question nos pratiques, mais écoutons la voix de gens qualifiés en ce domaine. Parce que oui, le TDAH est une vraie maladie. Parce que non, les parents ne sont pas simplement inadéquats. Parce que je ne connais aucun parent qui veuille droguer son enfant. Parce que je ne connais aucun enseignant qui pousse les parents à obtenir des diagnostics de coin de table seulement pour avoir la paix dans la classe. Aussi parce que mon cœur se brise lorsque je lis ou que j'entends les commentaires de ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans les bottines d'un parent d'enfant TDAH. Il mange trop de sucre, il écoute trop la télé, l'enfance n'est pas une maladie, les parents ne savent pas élever leurs enfants, etc. Si nous cessons de droguer nos enfants, nous revenons au Moyen Âge de la médecine. Oui, il y a plus de diagnostics qu'autrefois et c'est ce qu'on appelle le progrès, parce qu'autrefois, ces enfants recevaient des raclées de leurs parents excédés, se faisaient mettre dehors de l'école, étaient rejetés par leur père et passaient pour des cancres. C'était Mélanie Petit. Un texte paru aujourd'hui sur le site web du journal Métro. Peut-on critiquer au Québec? La sortie du film Paul à Québec m'a inspiré cette réflexion cette semaine et j'aimerais la partager avec vous afin de voir si c'est une impression que j'ai ou si une certaine complaisance règne dans notre univers culturel. J'en glissais un mot sur les médias sociaux à un collègue chroniqueur en lui soulignant que je méfie des films, des séries ou des livres qui ne reçoivent que des éloges. Paul à Québec, présenté en avant-première aux médias et à certaines personnalités, reçoit présentement ce traitement. Tout ce que l'on entend du film, c'est que c'est beau, touchant, un grand film, etc. Aucune nuance, aucune voix discordante. Je n'ai pas vu ce film adapté de l'excellente bande dessinée de Michel Rabagliati. Il m'est donc impossible d'en juger. Je peux par contre affirmer avec une certaine certitude qu'il n'est forcément pas un film parfait qui plaira à tout le monde. Où sont dans ce cas les critiques plus nuancées? Le même problème se pointe en télévision après les lancements festifs et les visionnements de presse organisés par les diffuseurs. Les critiques et les chroniqueurs reviennent au bureau sur un petit aïe et les défauts de notre télé n'aboutissent pas sur les pages. Que du bon, de l'anecdotique et du complaisant. Est-ce que c'est dangereux au Québec d'oser dénoncer un projet, un film, une émission avec une critique franche qui serait profondément négative? Ce danger expliquerait peut-être pourquoi les critiques et les chroniqueurs sont plus des agents de promotion que des observateurs neutres de notre télé. Quelques exceptions existent, fort heureusement, mais elles finissent quand même par cultiver des conflits d'intérêts avec certains producteurs, diffuseurs, créateurs, limitant les critiques honnêtes. Dans cette petite bulle limite co-sanguine, qui fait office de recteur? Pour la politique et les affaires publiques, les journalistes chevronnés bousculent et font avancer les dossiers, changent les choses, exposent les incongruités. Dans nos médias culturels, c'est beaucoup trop rare, créant ainsi une situation où les imperfections perdurent et s'institutionnalisent. Merci pour le défi linguistique ce matin à l'auteur. À ma question « Peut-on critiquer au Québec? », je crois que la réponse est « Oui, mais ». Et c'est très malheureux. On peut le faire, oui, mais on risque de se mettre des gens à dos, de limiter nos revenus, de réduire notre antenne de diffusion. On peut le faire, oui, mais on va se faire accuser de ne pas encourager notre production locale. On peut le faire, oui, mais on doit nuancer et trouver du positif à tout prix. Rire des séries américaines, de la chaîne TLC et des blockbusters estivaux, ça oui, aucun problème. C'est bar open, comme on dit. Mais réserver le même traitement à une production d'ici, c'est courir après le trouble. C'est malheureux parce que la critique est utile dans nos médias. Il faut s'offrir le luxe d'avoir autre chose que des papiers publicitaires et des entrevues de promotion. On ne tolère pas dans d'autres milieux. Pourquoi faire exception avec notre culture? Malheureusement, dans mon transfert du texte sur papier, j'ai perdu le nom de l'auteur, mais c'est...
Est-ce que c'est Stéphane Morneau?
Oui, merci Kevin Breton de nous avoir éclairé.
C'est lui qui est dans sa chronique Boîte à images dans le métro.
Oui, voilà, c'est lui qui nous disait ça ce matin et je pense qu'il pourrait avoir des discussions très intéressantes avec Catherine Voyer-Léger,
ouais,
qui a écrit le livre Métier critique et qui faisait le même genre de reproche à certains médias québécois. Dans les pages débat de la presse, l'éditorial de Paul Journet porte sur la STM et s'intitule « Décongestionner Montréal ». Dans son dernier rapport annuel, la STM se félicite d'avoir su préserver son achalandage. La fréquentation a augmenté d'un famélique 0,2% en 2014 et on espère 0,4% cette année. Pourtant, la part des déplacements en transport collectif devra bondir pour améliorer la qualité de vie, atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre et décongestionner le transport de personnes et de marchandises. Le non-recul de la STM constitue donc plus un échec qu'une victoire, dit Paul Journet. Mais elle n'est pas à blâmer. Au contraire, elle est victime du sous-financement et de la gouvernance dysfonctionnelle du réseau. Le ministre des Transports, Robert Poitiers, répète qu'avant de verser plus d'argent, il faut s'assurer que les sommes prévues soient bien dépensées ou qu'elles soient dépensées tout court. Il n'a pas tort. Près de 60 % de l'argent budgété par Québec n'arrive jamais à destination à cause du capharnaüm administratif qui fait avorter les projets. Il y a toutefois un hic. Ce sont les règles de Québec qui créent le blocage. Par exemple, le projet de service rapide par bus sur P9 nécessitait l'accord de Montréal, Laval ainsi que leurs sociétés de transport et arrondissements concernés. Et à chaque modification, il fallait réobtenir l'accord de tous. C'est donc au ministère de régler ce problème, écrit Paul Journet. Heureusement, son très attendu projet de loi doit être déposé cet automne et les premiers signaux sont encourageants. Pour la gouvernance, le ministre remplacerait l'AMT par une nouvelle agence responsable de la planification du réseau dans le Grand Montréal. Elle devrait toutefois être composée d'une majorité d'experts indépendants afin d'éviter que chaque maire tire la couverture de son côté. Il rejoint par cette opinion celle de son collègue François Cardinal qui écrit régulièrement la même chose. Pour le financement, M. Poitiers reconnaît le déficit d'entretien du réseau. Mais encore là, si le problème est dans les villes, la solution se trouve à Québec. Le système actuel décourage en effet la réfection, car elle n'est remboursée qu'à 75 % contrairement à 100 % pour l'ajout de services. Cela se traduit aujourd'hui par d'énormes factures. Par exemple, pour les 3 prochaines années, la STM devrait dépenser près de 3 millions de dollars en entretien. Plusieurs autres incitatifs pervers devraient être corrigés. Les automobilistes pestent contre leurs factures d'essence ou d'immatriculation, mais ils profitent sans savoir d'une aubaine, car ces factures ne suffisent pas à payer pour leur pollution. La solution réside dans l'éco-fiscalité. Les propositions de la communauté métropolitaine de Montréal à cet égard sont fort raisonnables, écrit Paul Journet. Elle souhaite hausser la facture d'immatriculation et la surtaxe sur l'essence, qui passerait de 3 à 5 cents d'ici 4 ans. Cette enveloppe financerait le développement du réseau. Il faut appâter les automobilistes en leur offrant un meilleur service en métro, trains ou autobus et en facilitant le covoiturage, car aucune politique ne devrait dépendre du sacrifice de soi. Allez Montréal et allez Kevin Breton, qu'avez-vous?
Ben, la chanson d'ouverture est tout à fait thématique avec mes nouvelles de la journée puisque c'est le tournoi de golf annuel du Canadien de Montréal qui a lieu toute la journée. Et habituellement, c'est une journée qui est assez dénudée d'intérêt. Il ne se passe pas grand-chose. Mais là, aujourd'hui, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, est allé de deux annonces assez importantes. Donc, tout d'abord, il a spécifié qu'un capitaine qui allait être nommé d'ici la fin du camp d'entraînement de l'équipe, c'est une chose non pas surprenante, mais qu'on ne s'attendait pas nécessairement parce qu'on pensait que peut-être que le Canadien allait entamer une deuxième saison sans avoir de capitaine désigné. Donc, c'est dans le cadre de ce tournoi de golf annuel qu'il a dit « Cette année, il y aura un capitaine au sein de l'équipe. On ne veut pas l'annoncer aujourd'hui, mais ce sera fait d'ici la fin du camp d'entraînement. » On rappelle que la saison commence le 3 octobre prochain. Bergevin a dit que lui et ses collègues ont longuement réfléchi à la question avant d'y aller avec cette avenue et d'identifier un meneur qui est respecté par ses coéquipiers. Le dirigeant a poursuivi en disant « La transition effectuée l'an dernier nous a aidés à prendre une décision. On a réfléchi beaucoup et on croit que l'équipe est prête à avoir un capitaine. » Bergevin ne voulait pas procéder à l'annonce en ce moment puisqu'il n'a pas encore pris le temps de discuter avec tous les joueurs en équipe. Il enchaîne en disant « Il faut prendre les bonnes décisions pour l'organisation, mais de la façon que notre groupe de meneurs a évolué, on croit qu'on est prêt pour cette étape. » L'an dernier, c'est Max Pacioretty, Piqué Subban, Thomas Plekanec et Andrei Markov qui avaient partagé le boulot du leadership avec 4A pour assistant.
Ouais, c'était le mode collégial l'an dernier.
Oui, c'est ça, c'était un leadership par comité. Et à la lumière du boulot accompli, on stipule dans le RDS.ca, d'où j'ai pris cet article, que Pacioretty a émergé comme étant le principal candidat. Le principal intéressé se sent prêt pour un tel défi. Il a été le premier joueur à rencontrer la presse et l'excellent marqueur a commenté le sujet du capitanat. L'Américain a déclaré « C'est une nouvelle excitante pour l'équipe. Il y a eu de si bons capitaines au sein de cette organisation. » Il poursuit en affirmant « Ce serait un honneur de recevoir ce mandat et tout le monde dirait la même chose. Je serais très excité d'obtenir ce privilège, mais je comprendrais si la décision prenait une autre direction. » Ça, c'est la première grande nouvelle qui est tombée ce matin.
D'accord.
Un autre article du RDS.ca, c'est que le Canadien n'a pas tourné avec le pot dans le cadre de son tournoi de golf annuel en annonçant aussi qu'Alex Galchenyuk allait avoir la chance...
N'a pas tourné avec le pot?
Bien, je suis un peu ouais, pantois de cette
pantois
formulation.
C'est autour, oui. Non, d'habitude?
N'a pas tourné avec le pot, c'est bien ce qui était
écrit sur
RDS.
Chez RDS, on tourne avec le pot, lui,
peut-être.
Tourner autour.
Ah, on réinvente la roue sur RDS.ca avec cette locution, qui moi aussi me laisse un peu sceptique. Mais enfin, bref, tourner avec ou tourner sans ou tourner autour, Alex Galchenyuk va jouer au centre l'année prochaine. C'est l'annonce que Marc Bergevin a fait en disant « On le voit comme un joueur de centre, mais ce sera à lui de démontrer qu'il peut le faire. On va lui donner tous les outils nécessaire afin qu'il obtienne du succès à cette position. » Rencontré quelques minutes plus tard, l'entraîneur Michel Therrien a expliqué le choix de l'organisation. « J'ai parlé avec Galchenyuk cet été et je lui ai fait part de mon plan et de ma vision. Je suis convaincu qu'il est prêt pour cette étape. Je voulais qu'il puisse se préparer cet été sans être entre deux chaises. » Mais là, on peut dire qu'entre deux chaises, l'expression cette fois-ci est bien utilisée.
Oui, oui. Ça, ce qu'on leur souhaite, c'est de faire beaucoup de tours du chapeau.
Oui, aussi, avec ou sans pot. Bien joué, Christiane, j'ai pas pensé à ça. Donc,
je connais pas beaucoup de choses au hockey, mais j'ai fait une chronique l'an dernier ici sur l'origine de l'expression.
Tour du chapeau.
Oui.
Donc, c'est quand un joueur marquait 3 buts,
oui.
le commerçant du coin donnait un chapeau gratuit au joueur.
Oui, et chaque ville prétend que c'est son chapelier local
qui a commencé.
Si vous prenez un tour guidé à Montréal, les guides de Montréal vont vous dire que c'est Henri, mais si vous prenez un tour à Boston ou un tour ailleurs, ils vont vous dire que c'est chapelier local, alors que ça remonterait en fait au criquet.
OK, c'est une tradition qui remonte d'un autre sport.
Oui, voilà.
Intéressant. Bref, c'est les nouvelles pour le hockey aujourd'hui. Dis-moi, Christiane, est-ce que j'ai encore le temps pour une nouvelle?
Oui, tu as encore le temps.
Bien, simplement mentionner que c'est ce soir que la NFL entame sa saison. Jamais une entre-saison de la NFL aura paru aussi longue, hein, la fameuse controverse du Deflategate et les histoires de tricherie entourant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre auront-elles miné la confiance des amateurs et réduit leur intérêt pour la NFL? La saison 2015 débute ce soir, alors que ces mêmes Patriots recevront les Steelers de Pittsburgh au Gillette Stadium. Et Tom Brady sera à son poste, mais plusieurs autres joueurs rateront le match, entre autres pour des raisons de suspension ou de blessure. C'est notamment le cas de Le'Veon Bell. Le demi-offensif a été suspendu pour 2 matchs parce qu'il a conduit avec des facultés affaiblies en août 2014. Son coéquipier LeGarrette Blount, qui porte aussi les couleurs des Steelers, donc était dans l'auto avec le fautif et a aussi été suspendu pour 1 match. On dit qu'on s'attend à un festival offensif entre les deux formations, puisque lors des 5 derniers matchs, ben c'est 56 points par rencontre en moyenne qui ont été marqués. C'est beaucoup pour le football américain.
J'avoue ne pas beaucoup
connaître. Pour te dire, une comparaison au hockey, ce serait en moyenne genre 6 buts par match.
OK, oui, quand même.
Puis en baseball, ce serait genre 20, peut-être 20, ouais.
OK.
J'exagère.
Et est-ce que vous vous intéressez au baseball, Kevin?
Ben oui, je m'intéresse beaucoup au baseball.
Moi, je vous ai déjà expliqué hors honte pourquoi je ne serais jamais fan des Blue Jays, parce que, question de droit de télévision, ils sont un peu responsables du départ des Expos. Mais dans le Journal de Montréal, quand même, ce matin, on soulignait l'occasion ratée hier. Les Blue Jays de Toronto ont raté une belle chance d'accroître leur avance en tête de la section Est de la Ligue américaine hier à Boston, lorsqu'ils ont subi une défaite de 10-4 aux mains des Red Sox. Alors, beaucoup de Québécois s'y intéressent depuis peu à cause de la présence de M. Russell.
Russell
Martin, merci beaucoup. Vous voyez à quel point je me suis pas encore décidée à suivre les Blue Jays. Alors, ça nous mène ainsi à la fin de cette édition du 9 septembre. Non, pas encore tout à fait. J'avais justement une question à poser à Kevin.
Oui.
Est-ce que vous participez à des pools, vous? Est-ce que vous faites
Puis, en fait, on a un pool traditionnel avec mon ami qu'on fait qui s'appelle le pool que Simon va perdre parce que ça fait 2 ans consécutifs qu'on le fait et qui termine dernier. Donc, c'est devenu une tradition. Puis, à chaque année, on fait le pool que Simon va perdre. Puis là, ça commence bientôt la saison des poules. Le début du calendrier préparatoire est le 22 septembre dans la LNH. Habituellement, ça tourne dans ces eaux-là où que les pouleurs se rassemblent et sélectionnent leurs joueurs.
Vous en faites que pour le hockey?
Oui, parce que je pense que ça se prête un peu moins bien au baseball, à ces autres sports, là, je sais pas.
J'ai jamais participé à des poules. J'avais pensé en faire un pour les magasins de vapotage à Montréal. Au nombre qui a ouvert pour savoir lesquels allaient fermer le plus rapidement. Mais j'en ai jamais fait de poule dans le hockey encore. Je devrais essayer, j'aurais peut-être la chance du débutant.
Ben peut-être, ouais. Là, me fais penser que je vais devoir prendre des paris avec Clotilde à son retour parce qu'hier, on discutait de la rivalité qui allait maintenant nous unir, hein, celle qui est partisane des Carabins de Montréal et moi qui suis un partisan du Varéor.
Moi, j'étais à la socialiste UQAM qui n'a pas d'équipe de football.
Ben,
alors, je suis démunie encore une fois dans ce domaine. Alors, nous voilà maintenant à la fin de cette édition du 10 septembre des Voix de service. Je remercie toutes les voix qui ont participé à l'émission et vous continuerez d'entendre celle de Kevin dans quelques instants avec le quotidien bulletin du handicap. Bonne journée tout le monde!
Bonjour, je suis Gérald Cousineau, auteur biographe au Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix.
Le bulletin du handicap.